La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous avons, dimanche dernier, assisté à Saint-Flour, au Rex, à un concert mémorable.
Oui, on y était allé en se disant, on ne connaît pas, c'est un quatuor classique, on espérait qu'on n'allait pas s'ennuyer.
Bon, on ne s'est pas ennuyé une minute, bien au contraire, ça a été un très très bon moment. Quatre saxos, un soprano, un alto, un ténor, un baryton, présenté par un leader...
Plein d'humour,
tout à fait, ça change vraiment. Très bien présenté, ça en a fait. Alors, de la musique formidable, un ensemble de sax qui sonne vraiment très très bien, et notamment, il faut le souligner, un moment dans la musique de Ravel qui me restera vraiment dans la mémoire.
Car c'était de la musique classique, mais pas du tout ennuyeuse. La musique classique, c'est quelquefois absolument merveilleux. C'est même très jeune parfois, mais d'autres fois, c'est ennuyeux.
Oui, quand les gens ont enfoui ça sous beaucoup de poussière, ça devient un peu... Mais alors là, c'était pas le cas. On était en plein dépoussiérage, si... Quand est-il qu'il fallait dépoussiérer? Là, je dois dire, ils ont été formidables. Donc, ce Quatuor Morphing, si vous y étiez pas, vous avez manqué quelque chose. Voilà, nous n'insisterons pas. Mais nous avons l'idée, après avoir entendu ce que nous avons entendu, de consacrer l'émission qui vient, justement, aux ensembles de saxophones.
De jazz, naturellement.
Nous sommes sur la planète du jazz, de toute façon. Et puis, n'oublie pas que, comme on disait avant-guerre dans la critique de musique classique, les jazzmen ont dévoyé l'honnête famille des saxophones.
Wow, c'était des gens un peu pincés qui disaient ça.
Donc, vous allez être instantanément plongés dans le dévoiement intégral, car voici la première expérience qui a été faite, et ça a été fait en France, de confier un enregistrement uniquement à une section de saxo.
Et là, naturellement, c'était une idée d'Hugues Panassier qui était souvent novateur. Oh, il était jeune à cette époque-là, Hugues Panassier.
Mais il a toujours été très affûté, moi, je trouve. En fait, c'est une idée des deux fondateurs de la marque de disques Swing en France, qui étaient donc Hugues Panassier et Charles Delaunay. Et là, c'était pour, justement, le disque Swing numéro 1.
Oh, vous vous rendez compte.
Et ils se sont dit, on n'a jamais fait ça, on va essayer, on a sous la main en Europe de formidables musiciens, soit français comme André Équian ou Alix Combel, soit américains comme Benny Carter ou Hawkins. Donc on met Django à la guitare, Stéphane Grappelli au piano, là pas au violon mais au piano, et on y va.
Rendez-vous compte de ce casting.
Et alors ce premier enregistrement d'un quatuor de saxophone jazz n'a pas été tout seul, parce que Benny Carter n'avait pas compris qu'il fallait qu'il écrive des arrangements. Donc les arrangements, les parties d'ensemble que vous allez entendre ont été entièrement composées, apprises, sans aucune note écrite au studio. Et bon. La formule a été en fait de mettre un arrangement en début et en fin de morceau et d'intercaler un solo de chacun.
Voici donc Honeysuckle Rose, suivi de...
Crazy Rhythm. On vous les passe naturellement à la file, puisque ce sont les deux seuls témoignages de ce premier essai qui, on doit quand même le dire, comme vous allez pouvoir en juger, a été très largement un essai transformé.
Thank you.
Là, ce que vous allez entendre, ce n'est pas un quatuor, mais un duo. Mais ce duo, il a quand même une histoire parce que c'est le maître et l'élève. Figurez-vous que Ben Webster, que vous allez entendre, il avait appris tout seul, vous savez, dans sa chambre, comme certains. Et avec quoi il avait appris ? Eh bien, avec les disques de son idole, Hawkins.
Et oui, Ben Webster est le plus proche disciple, en fait, de Coleman Hawkins. Et d'ailleurs, quand il raconte ça, il dit qu'après avoir passé un temps fou à étudier la sonorité de Hawkins comme ça, eh bien, le jour où il est arrivé, alors, il est ressorti de sa chambre, il était déjoué en ville.
Oui, c'était jamais montré avant, dites donc.
Et il a fait une très belle carrière. C'est un des plus grands saxoténors, Ben Webster, comme Coleman Hawkins, qui, lui, plus âgé que lui, fut le véritable inventeur du saxophone ténor dans le jazz. Et un jour, un organisateur éclairé les a réunis pour faire un disque à deux saxoténors où ils se donneraient la réplique. Et on a pris Oscar Peterson et son trio comme rythmique. Et ça a donné un disque qu'on a stupidement appelé duel, alors que c'est pas du tout le propos. Mais
bien au contraire, ils sont très complémentaires.
Et là, on les entend, ça sonne merveilleusement bien. Et ça sonne encore plus merveilleusement que dans les autres plages, dans un morceau latino.
Qui s'appelle La Rosita.
La Rosita. Et je peux vous dire que dans la reprise du refrain de La Rosita, le son de ces deux ténors, leur vibrato, c'est quelque chose de prodigieux. À vous, Rosita.
Thank you.
Quand on pense qu'il se dit que les jazzmen ne sont pas romantiques, ah, bah écoutez, alors là, on a bien la preuve du contraire. Hein.
Ça, c'est bien vrai. Mais on va retourner en arrière parce que faut quand même faire un tout petit peu d'histoire dans cette affaire de saxo. L'inventeur du saxo en jazz, donc Coleman Hawkins, a été membre du premier big band de grand orchestre de jazz qui fut Fletcher Anderson. Et dans cet orchestre, il y avait le premier grand arrangeur de jazz.
Don Redman.
Et alors, ce Don Redman, il a fait des orchestrations absolument incroyables qui ont vraiment changé totalement la donne par rapport à la musique de danse commerciale qu'on pouvait entendre à l'époque.
Et dans le morceau que vous allez entendre, il y a là un trio de saxo.
Mais alors, un trio formidablement bien écrit.
Ah oui, il y a des moments véritablement chantants.
Et ce disque est également très célèbre parce que le trompettiste qui ouvre l'enregistrement, qui est Joe Smith, joue d'abord à sa façon habituelle, c'est-à-dire plutôt doucement, sensiblement. Et puis après, il change totalement de style et de peau et il joue un peu comme son voisin de pupitre, Tommy Lanier, qui était lui plutôt un violon.
Le résultat, c'est que pendant des années, on a cru qu'il y avait d'une part Joe Smith, d'autre part, Tommy Lanier.
Eh bien, il a fallu 40 ans pour que l'oreille d'Hugues Panassier arrive à démêler le faux semblant du vrai.
Et comme c'était tellement beau, ça gênait pas.
Voilà, ça gênait pas. C'est un petit point d'histoire. Et puis, il y a aussi un formidable solo de trombone de Jimmy Harrison, magnifiquement construit. Enfin, c'est un très beau morceau. Et ça s'appelle
I'm Coming, Virginia. Cette fois-ci, ce que vous allez entendre, c'est toujours avec Don Redman, l'arrangeur, mais avec son propre big band. Et là, il va utiliser une formule avec 5 saxos.
Oui, d'ailleurs, la section de sax à 5 est en train de se généraliser à cette époque-là. On va la retrouver un peu partout. Mais là, il y a une originalité.
Oui, c'est que le saxo-soprano devient première voix. Alors, pour vous situer, le saxo-soprano, c'est l'instrument qui a été absolument popularisé par Sidney Bechet.
Et d'habitude, les sections à 5 se sont stabilisées avec deux altos, deux ténors et un baryton. Et c'est une originalité de Don Redman d'avoir troqué l'alto contre le soprano, parce que ça s'est très peu fait. Et ça donne à la section de saxo un son très spécial avec, avec des moments extrêmement chantants.
D'ailleurs, le titre parle déjà, puisque c'est « Sweet Sue », c'est-à-dire « Oh, la délicieuse petite Suzanne ».
Et oui, d'ailleurs, le titre en entier veut dire « Délicieuse petite Suzanne, il n'y a vraiment que vous ». Il faut souligner que tous ces gens-là étaient très jeunes. Hein. Tout à l'heure, dans I'm Coming Virginia, la moyenne d'âge de l'orchestre Fletcher Anderson, c'était 23 ans.
Oui, quand même.
Bon. Et on a un phénomène, d'ailleurs, dans certains de ces big bands, c'est qu'un professeur a créé une formation de musique avec ses élèves. C'est devenu le noyau de quelque chose. Et c'est, par exemple, le cas pour ce qu'on va entendre maintenant, qui est Jimmy Lunsford.
Mais là, attention, il y a un arrangement tellement, tellement difficile pour ce quintet de saxo qu'il y en a un qui a déclaré forfait, un des saxos.
Il n'y arrivait pas. Figurez-vous que la section de saxo de Jimmy Lunsford, donc, qui comportait 5 membres, comme c'était devenu à peu près l'usage, comportait un chanteur qui tenait le pupitre de saxo-ténor, mais qui était surtout là pour crooner, parce que c'était aussi la mode.
Et oui, crooner, ça veut dire chanter de façon un peu sirupeuse, vous voyez.
Voilà, et quand il est tombé sur cette partie de l'arrangement concernant justement le chorus de section de saxophone, et il n'a pas pu suivre. Alors Jimmy Lunsford, qui était le chef d'orchestre, a posé sa baguette, a pris le ténor et a joué sa partie à sa place pour l'enregistrement.
C'est quand même impressionnant, hein, parce qu'il n'en jouait pas quand même très couramment.
Ah non, mais il est arrivé
là,
très bien.
Impeccable.
Non, c'était des cadors tout de même. Hein,
oui.
Attention. L'arrangement ardu était une malice du pianiste Edwin Wilcox, du pianiste de l'orchestre. Et le morceau s'appelle
Sleepy Time Girl.
Thank you.
Comme tout le monde sait, les Trois Mousquetaires étaient quatre. Eh bien là, les Four Brothers, les quatre frères, ils sont cinq.
Alors on se dit, extraordinaire, incroyable. Il y a quatre frères là qui jouent du saxo. Pas du tout. C'est en réalité, à cause du morceau qu'on va vous passer, qui s'appelle Four Brothers, qu'on les a surnommés ensuite Four Brothers.
Parce qu'ils ont marqué, quand même, avec ce morceau, leur solo, leur manière de jouer l'arrangement. Ils ont marqué, le disque a été très connu au moment où il a été publié. Il est resté un peu légendaire et certains ont même été jusqu'à parler d'un véritable tournant dans l'histoire du jazz. Là, je crois qu'ils
n'exagérons rien quand même. Hein.
Tout ce qui est excessif est insignifiant, comme chacun sait.
Mais c'est vrai que, quand même, là, les gens du milieu connaissaient.
Ça fait du bruit. Alors, heureusement, dans ce disque qui s'appelle donc Quatre Frères, titre purement de circonstance parce que mis à la place d'un titre qui sonnait presque pareil mais qui était une grossièreté absolument carabinée et impubliable, il y avait quatre solistes saxophonistes qui ont laissé un nom et qui s'appelaient Zoot Sims, Serge Chaloff, Herbie Stewart et Stan Getz, qui est le plus connu de cette tribu juvénile, car d'ailleurs, à l'instar de l'orchestre de Fletcher Anderson tout à l'heure, ça se passe beaucoup plus tard, mais tous ces gens-là sont également extrêmement jeunes, et, faut dire, extrêmement brillants. L'orchestre, en fait, dans lequel ils sévissaient, c'était le Big Band de Woody Herman. Thank you. Brothers. L'arrangement est de Jimmy Giuffre qui, quelques temps après, a pondu un autre arrangement sous le titre de Four Others. Et là, c'était consacré aux quatre trombones. Voilà, ça, c'est les calembours du jazz.
Eh bien oui, ils étaient jaloux, les trombones. Ah, ils voulaient aussi.
Ils en voulaient aussi. Ah,
bon,
bah, oui,
alors.
J'ai commencé les trombones hein, avec leurs grandes coulisses. Là,
on revient à un quatuor de saxophone. Et probablement, Coleman Hawkins s'est souvenu du disque qu'il avait fait auparavant. Ça lui avait bien plu. Et il s'est dit, pourquoi pas.
Là, tu penses au quatuor de saxophone par lequel on a ouvert l'émission.
Voilà.
Bah, c'est vrai qu'il est revenu à la même formule, mais alors là, à son initiative, 7 ans plus tard, et avec d'autres gens. Et la configuration est un peu différente. Il y a un seul alto, 2 ténors et 1 baryton. L'alto, c'est Tab Smith qui a également fait les arrangements. L'autre ténor, c'est Don Byas. Et le baryton, c'est celui de chez Duke Ellington.
Harry Carney. Et le premier morceau que nous allons vous faire entendre s'appelle « Battle of Sax ». Alors c'est assez rigolo parce que c'est en réalité une transformation amusante d'un film très célèbre à cette époque-là qui s'appelait « Battle of Sax ». Un film tout à fait comédie américaine, tout à fait amusante, qui a eu un succès fou. Donc voilà, petit joke.
En anglais, on appelle ça « happening référence ». Et nous ferons suivre ce « Battle of Sax » d'un autre morceau de la même séance qui s'appelle « Three Little Words. 3 petits mots. Thank you. Très grand nom parmi les arrangeurs, capable de faire chanter, de faire sonner une section de saxophone.
Eh oui, il s'agit de Benny Carter, bien sûr.
On peut dire que personne n'a jamais su faire sonner une section de saxo comme Benny Carter et ses arrangements. Et là, on va faire un retour en arrière, car Benny Carter a succédé à Don Redman et au poste de premier alto et au poste d'arrangeur principal chez Fletcher Anderson. Et en fait, il a frappé très fort parce que ses arrangements déjà avait son style, sa signature, et on les reconnaît entre mille.
Vous allez entendre aussi une chose intéressante, un vocal de Jimmy Harrison imitant Burt Williams. Alors vous me direz, Burt Williams, qui c'est ? On en a parlé dans l'émission précédente, vous savez, sur les personnalités. C'était quelqu'un d'extrêmement connu, mais alors en tant qu'acteur.
Comédien, musicaux, les meneurs de revue finalement.
Voilà.
Et c'était la génération encore avant, si bien que là, on est dans le souvenir. Et ce vocal de Jimmy Harrison vient après un trio vocal qui est également de Benny Carter, qui, je pense, en fait partie. Et tout ça, ça s'appelle...
Somebody Loves Me.
me. I wonder who. I wonder who she can be. Somebody loves me. I wish I knew who she can be. Where is me? Everyone passes by shout, hey, hey me. You are meant to be my loving, 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 hey me. Somebody loves me. I wonder who. Maybe it's you.
Yes, sir. Somebody loves me. And I wonder who. Yes, sir. I wonder who it could be. True. Somebody loves me. And the times I wished I knew just who it could be, it worried me. Yes, ma'am. Everyone passed me by. I shout, hey, maybe. Maybe you were meant to be my loving baby. Baby, baby. Somebody loves me. And I wonder who. Maybe it's you, baby. I don't know. Papa got to see tonight. Oh, my, my, my.
Alors nous, quand on pense à Benny Carter et à ses grands orchestres, parce qu'il a très rapidement volé de ses propres ailes à la tête d'une succession de grands orchestres, nous avons un souvenir que nous allons vous faire partager.
Oui, c'était au Carnegie Hall.
À New York, là, une salle légendaire. Il y a quand même 4000 personnes hein, devant. C'était... Et là, nous avons entendu à la tête d'un big band de circonstances formé d'une pléiade de stars, mais qui était totalement affûté, hein, c'était extraordinaire. Nous avons entendu donc ce big band mené par Benny Carter jouer le morceau que vous allez entendre, qui est pour moi un des sommets de l'art d'arrangeur.
Il s'agit de Sleep.
Elle s'appelle Sleep, et pourtant il n'y a pas de quoi s'endormir.
Thank you.
maintenant...
Retour en France.
Vous vous souvenez qu'en début d'émission, on vous a dit que Hugues Panassier avait fait enregistrer des disques, et c'était bien sûr en France. Eh bien là, on y retourne en France, avec Benny Carter, bien sûr, et des petits Français.
Les petits Français, ils ont repris la formule, justement, de Panassier et Delaunay, le premier quatuor de saxophone enregistré. Ils ont repris la formule sous la direction de Claude Tissandier. Claude Tissandier, si vous entendez parler de lui pour un concert, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un formidable musicien, arrangeur et chef d'orchestre. Et il joue du saxo alto. Et ces petits Français-là, on va dire leur nom parce que, d'abord, ils sont toujours sur le terrain, hein, puisque c'est pas très vieux, tout ça. Et leur nom mérite d'être cité. À l'alto, nous avons, donc...
Claude Tissandier.
Et Jean Etève. Et au saxo ténor,
Nicolas Montier
et Claude Brault. Et c'est Claude Brault d'ailleurs qu'on va entendre en soliste au ténor dans le morceau qui suit.
Donc ils avaient invité Benny Carter, quand même, hein. C'est un sacré invité. Hein.
Oui, une belle pointure. Et puis également, là, un copain à eux, un très très bon trompettiste, alors celui-là aussi on dit son nom parce qu'il est toujours sur le terrain, etc., etc., qui s'appelle François Bienfant. Et ils se sont payés le luxe de faire jouer à Benny Carter un morceau de Duke Ellington qui s'appelle Cotton Tail, où Benny Carter joue le dernier solo.
Thank you.
évidemment, nous vous avons emmené dans un morceau d'Ellington, et ce n'est pas par hasard, parce que s'il y a une section de saxo qui a sonné, c'est bien celle de l'orchestre de Duke Ellington, marquée d'un côté par le premier alto Johnny Hodges et de l'autre côté par le saxo-baryton Harry Carney, qui lui donnait une couleur très spéciale.
Et le morceau que nous allons vous passer pour terminer s'appelle Gibbs Blues, et il est dédié à Hodges.
Et à la section de saxo.
Pourquoi Hodges ? Pourquoi Gibbs ? Parce que Gibbs, c'était le surnom de Hodges, qui venait lui-même d'un petit personnage, une sorte de lutin, vous voyez, un peu tourbillonnant, qui est petit, naturellement.
Doué de pouvoirs magiques.
Et qu'on trouvait dans une bande dessinée.
La fameuse bande dessinée Popeye le marin.
Et ben voilà.
Aux côtés de Miss Olive et de Popeye, Gibbs était un des personnages secondaires de cette fresque qu'on appelait un comique. Tout ça se passe au festival de Newport. C'est absolument magique, c'est un blues. Donc il s'appelle Gibbs Blues.
Gibbs Blues.
Et ce morceau, peut-être vous allez le reconnaître, parce qu'il a longtemps été l'indicatif de la planèse du jazz.
Thank you. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.